Bonjour à tous et à toutes, bonjour les enfants. Alors, ce matin, voilà, on va lire un texte biblique ensemble. Et j'aimerais vous rendre attentifs et attentives à une idée très simple, c'est que pour interpréter un texte, il faut le comprendre. Ça paraît simple, mais en même temps, c'est essentiel. Comprendre, ça signifie saisir, ça signifie prendre ensemble. Le mot texte et textile ont la même racine. Et l'idée, c'est que le film de l'auteur, du texte et du lecteur se croisent pour comprendre, pour tisser le fil de la compréhension. À l'école, pour les enfants, on dit souvent il faut que l'enfant se fasse le film de l'histoire, c'est ce qui prouve qu'il a compris un texte. Donc ce matin, on va essayer de faire ça. Alors, pour démarrer, et ce que j'aimerais vous prouver ce matin, c'est que les enfants sont capables de comprendre. Si on leur donne les clés pour défaire les nœuds qui les empêchent de comprendre, l'interprétation d'un texte va être seule. Et c'est une clé que j'aimerais vous prouver. Donc, on va lire un texte biblique ensemble. Alors, voilà, on va retourner à la maison. Vous vous imaginez chez vous dans votre salon, vous vous installez confortablement avec vos enfants et je vais inviter une famille, la famille Berthold, qui va venir s'installer comme si vous étiez chez eux et ils vont nous lire ce texte. Ce texte, c'est un psaume, c'est le psaume 107. Et on va d'abord le lire en entier parce que pour lire et comprendre, il faut lire, relire, encore relire, encore relire. Donc, là, vous n'avez pas de canapé, désolé. Mais dans votre tête, voilà, imaginez-vous chez vous, tranquillement, dans ce psaume 107, dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Dites-le. Nous voulons que le Seigneur a libéré. Et dites cela. Que le Seigneur a arraché à l'ennemi, ceux qui l'ont rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Certains marchaient un peu partout dans le désert, dans bien des endroits perdus. Ils n'en trouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Ils avaient faim et soif, ils étaient découragés. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés de leur faim. Il les a conduits tout droit vers un lieu habité. Il a remercié le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Oui, il a donné à voir à ceux qui mouraient de faim. Il a nourri généreusement ceux qui mouraient de faim. L'autre était en prison, en une cellule seule. Il était très malheureux, attaché avec deux chaînes. Ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu. Ils ont refusé le projet de Dieu très haut. Dieu les a brisés par la souffrance. Ils sont tombés et personne n'est venu les aider. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a éliminés de la foi. Il les a fait sortir de leur solution. Il a cassé la scène. Il a remercié le Seigneur pour son malheur. Étonnante envers les humains. Oui, il a payé les portes de bronze. Il a fait sauter les bureaux de fer. D'autres étaient devenus stupides, tellement ils se conduisaient mal, ils se rendaient malheureux par leur faute. Ils ne pouvaient plus rien avaler. J'étais proche de la mort. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a délivrés de la maladie. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la mort, à la tombe. Il remercie le Seigneur pour son amour, pour ses délivrances envers l'animal. Il offre des chanter avec des cris de joie qu'il raconte de ce qu'il a fait. D'autres sont partis en bateau pour travailler en plein mer. Ces gens-là ont vu que le Seigneur a fait ses efforts quelques-uns sur la mer. Dans ce moment, il a fait venir la tempête et le vent a soulevé les vagues. Leur bateau était lancé vers le ciel, qui descendait au fond de mer. Les marins se sentaient vraiment très mal, ils ne pouvaient plus tenir debout. Ils marchaient comme des gens qui ont trop bu. Ils ne savaient plus rien faire. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il a calmé la tempête et les vagues sont restées tranquilles. Les marins étaient remplis de joie en voyant le calme de la mer. Le Seigneur les a conduits au port qui lui a attendu. Qui remercie Dieu et le Seigneur pour son amour et ses actions également envers les humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple. Qu'il chante sa louange au conseil des enfants.
Je vais terminer pour dire que, verset 33, le Seigneur peut changer les fleuves en désert, les oasis en terre sèche. Le sol riche en sol pauvre, quand les habitants sont mauvais. Mais il peut aussi changer le désert en un grand lac et la terre sèche en oasis. Là, le Seigneur installe ceux qui ont faim et il bâtisse des maisons à cet endroit. Il sème dans les champs, il plante des vignes, il en récolte des fruits. Le Seigneur les bénit, ils deviennent très nombreux, ils ne laissent pas diminuer leurs troupeaux. Mais d'autres deviennent moins nombreux. Ils se courbent sous le poids de la tristesse et du malheur. Le Seigneur couvre de mépris les notables, il les laisse se perdre dans un désert sans piste. Mais il tire les pauvres de la misère, il rend leur famille aussi nombreuse que leur troupeau. En voyant cela, ceux qui ont le cœur pur sont dans la joie. Tous ceux qui ont l'esprit tordu se taisent. Si quelqu'un veut avoir la sagesse, il fera attention à ces choses. Il reconnaîtra l'amour du Seigneur. Amen.
Alors voilà, tout au long de ce culte, je vais vous donner des clés d'interprétation de la Bible. Voici la première clé, clé de culte. Pour comprendre un texte, il faut aussi questionner le texte, poser des questions. Et je vous encourage à lire la Bible en arrivant avec vos enfants, et ce n'est pas du tout ennuyeux. On pose des questions. Alors, il faut savoir poser les bonnes questions. Alors, si vous ne savez pas poser les bonnes questions, vous irez à la fin du culte, à la petite table de la cathédrale, il y a un filmé qui vous explique d'un côté tous les domaines qu'on peut questionner, de l'autre côté tous les niveaux de questionnement. C'est pas un sujet ce matin parce que c'est de la formation moniteur. Vous trouverez aussi le texte pour le livre en tableau et même un document un peu plus complet pour des idées de questions. Et vous allez voir que si vous questionnez le texte, c'est très très fort. Alors, bien sûr, comme les autocopies couleur, c'est cher, mais aussi une petite cagnotte, c'est qu'il y a des plus grandes centimes, c'est pour l'étude. Voilà. Donc, on va y aller. On va questionner. Alors, première question. Qui sont les personnes présentes dans ce film? La question. Simple. Le premier. L'auteur. Il y a des personnes qui vivent des situations différentes, quatre histoires différentes, et il y a qui encore? Ben oui, il y a qui. Ensuite, qui parle? C'est l'auteur, oui. Alors, ici, c'est le psalmiste qui parle. Alors, les enfants, eux, à l'école, c'est la différence entre l'auteur et le narrateur. Les parents, vous voulez distribuer? L'auteur, c'est celui qui a écrit le texte. Le narrateur, c'est celui qui raconte. Par exemple, quand Jésus raconte une parabole dans les évangiles, c'est lui le narrateur, mais ce n'est pas l'auteur. L'auteur, c'est Matthieu, Marc, etc. Voilà. Donc, ici, c'est l'auteur qui parle. Mais ce qui est étonnant dans cette chose, c'est qu'il est en même temps le narrateur. C'est lui l'auteur et c'est lui qui raconte. Voilà. Ensuite, de qui parle-t-il? Question aussi un peu pour le moment. Ben, il parle tout simplement des personnages, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils vivent, des émotions qu'ils traversent, le contexte. Et le psalmiste parle aussi de Dieu. Il explique ce que Dieu fait, a fait, dans les applications, mais aussi ce que Dieu peut faire en général. Alors, là, ça commence à devenir intéressant. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse le psalmiste qui est en même temps le narrateur dans ce psaume? Est-ce que vous avez. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, on va aller voir. Alors, premièrement, quand il dit qu'il dise cela aux gens que le Seigneur a libérés, arrachés, rassemblés, il parle à qui là? Il parle au protagoniste de l'histoire, c'est-à-dire il parle directement au personnage de l'histoire. C'est très drôle, c'est rare que l'auteur soit en même temps narrateur et parle en même temps au personnage de l'histoire. C'est très drôle. Et puis, on continue. À qui est-ce qu'il parle encore ici, au premier verset? Au premier verset, il dit « Dites merci au Seigneur, car il est bon, car son amour est pour toujours. À votre avis, parle qui? » Ah, tout le monde. Et regardez le dernier verset. Qu'est-ce qu'il dit au dernier? Si quelqu'un, si quelqu'un vient avoir de la sagesse, il fera attention à ces choses et il reconnaîtra l'amour du Seigneur. Là, dans le premier verset et dans le dernier verset, il parle à tout le monde. Si quelqu'un, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Et là, l'auteur nous donne déjà une deuxième clé de lecture. Ça va vite, on aura plus ce matin. Il nous donne déjà une deuxième clé. C'est-à-dire, il met les quatre histoires en sandwich entre le verset 1 et le verset le dernier, le tout dernier, 53. Il dit, voilà, dès le départ, voilà, je veux que vous fassiez attention à l'amour de Dieu, que vous lui disiez merci pour son amour, et à la fin, il dit, si quelqu'un veut avoir la sagesse, qui réfléchisse un peu. Et entre, il explique des choses, ça veut dire qu'entre, on pourra trouver des réponses à une question. Comment il est l'amour de Dieu? Et là, c'est une clé pour vous quand vous lisez. On lit pour vous. Il ne faut pas lire pour vous. Hein. Quand je fais une recoupe de cuisine, je ne lis pas le livre pour la lecture, pour avoir lecture. Je lis parce que j'ai besoin de chercher quelque chose. Donc nous, quand on lit la Bible en tant qu'adulte, en général, on va se disposer. C'est pour écouter Dieu, c'est pour avancer dans notre vie. Qui on est, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais vous, à la maison, avec les enfants, vous pouvez aller même plus loin que ça. C'est-à-dire, les grands, je dis, partie la priorité des enfants en disant, j'aime que dans ce passage, je vais découvrir à quel moment il sera basculé. À quel moment le personnage a réagi de telle façon. Comment il veut intervenir à tel moment. Et donc, on dit pour, on n'est pas juste pour dire. Et ça, c'est une clé essentielle pour lui. Donc, on va continuer. Donc, maintenant, on va répondre à la question. Comment lire l'amour de Dieu? Et bien, on va y aller pour courir toute notre histoire. La première histoire, c'était des gens qui marchaient quand ils étaient partout dans le désert, dans des endroits perdus. Ils ne trouvaient pas le chemin. Ils étaient découragés. Ils leur manquaient l'essentiel. Il n'avait pas de distance, pas de repère, pas de sécurité, pas de repas. Moi, on n'a même pas besoin de décrire la situation parce qu'on vient d'avoir une super vidéo tout à l'heure qui parle et on n'a même pas besoin de donner des exemples. Ils sont là, les exemples. L'auteur a écrit, nous cherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des vibrants qui cherchent une maison, sachant confusément que ça existe. Et on peut tous être perdu à un moment donné de la vie. Quand on a étudié ce texte à Nancy, au forum des moniteurs d'école du dimanche, cette catégorie-là, tous les moniteurs l'ont été pris pour ceux qui sont perdus dans le sens loin de Dieu. Oui, quand on est loin de Dieu, c'est pour les perdus. Mais Jésus, il dit, je suis venu pour chercher ceux qui sont perdus, donc c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas que ça. On peut être perdu, alors nous, on a pu vécu des choses aussi terribles que ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Nous, on peut perdu par un travail, un nouveau travail, on peut être perdu quand on arrive en retraite, parce qu'il paraît qu'on est perdu pendant 3 ans. On peut être perdu pour arriver dans l'enfant. Moi, mon aîné, quand j'ai accouché mon aîné, j'ai tout perdu. J'ai vu mes loups et mon emploi. Je n'ai pas vu ça avec. On peut être perdu parce que je suis faible avec les filles de notre famille. C'est normal. On peut être perdu. Perdu, ce n'est pas forcément mal faire. On peut être perdu parce qu'on est débouché. Et les enfants peuvent être insécurisés. Vous savez, juste sur les enfants. Les enfants sont en train de se construire tout leur repère. Qui je suis, qui est l'autre, comment réagir à cette situation. Tout est nouveau pour eux. Quand tout est nouveau, on peut être perdu. Comment savoir comment réagir dans une cour de récréation quand quelqu'un m'agresse, si je n'ai jamais vécu avant. C'est nouveau. C'est difficile. Comment savoir comment réagir dans une cour de récréation si quelqu'un me ment et me demande de mentir. C'est difficile, on est perdu. On ne sait pas. Voilà, c'est la première situation. Maintenant, on va parcourir les quatre. La deuxième situation, ce sont des gens qui sont enfermés. D'autres étaient en prison, dans une cellule sombre, ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes, ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu, ils ont méprisé le projet du Dieu de Dieu. Là, on voit une autre catégorie de personnes. Les premiers étaient perdus dans quelque chose de trop large, trop vaste, et eux, ils sont enfermés dans quelque chose de trop étroit. Ils ont refusé d'obéir. Dans notre vie, les enfants, sachez-le, on a toujours le choix entre deux. On va toujours choisir si on va vers la vie ou si on va vers la mort. On va toujours choisir si on va vers le plus ou si on va vers le moins. Donc, c'est toujours comme ça. Moi, ce qui m'a frappé dans ces deux premiers exemples, c'est que les premiers sont comme dans une insécurité qu'ils ont subi, les deuxièmes dans un enfermement qu'ils ont choisi. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilter. J'ai tout de suite pensé à Jean 10, vous savez l'histoire de la bergerie. Dans Jean 10, verset 9, Jésus dit, c'est moi la porte de la bergerie, c'est moi la porte, et il dit, les brebis doivent entrer et sortir. J'ai jamais compris pourquoi il écrit les brebis doivent entrer et sortir. Et bien, parce que c'est juste le contraire. On croit que quand on vient à Dieu, on va être enfermé, mais non. On va être sécurisé dans la bergerie. C'est un enfermement. C'est quelque chose de rassurant. C'est. Voilà. Et ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir. Ça veut dire que quand on vient à Dieu, on n'est pas enfermé. On est plutôt enfermé quand on désobéit. On est plutôt enfermé quand on est borné. Le pasteur Jacques était là la semaine dernière, disait qu'il était plus difficile de choisir la liberté que de choisir l'enfermement. Il y a quelque chose là. On continue. Les troisièmes. Alors, d'autres étaient devenus stupides tellement ils se conduisaient mal, ils se rendaient malheureux par leur faute, ils ne pouvaient plus rien avaler, ils étaient proches de la mort. Là, les enfants, il y a quelque chose, une règle qui est très simple. Quand on choisit un mauvais comportement, ça a des conséquences à un moment ou à un autre. 1. Ça nous rend malheureux. 2. Ça nous rend. Alors, ce n'est pas moi qui dis ce mot, c'est un mot qui ressemble un peu à un gros mot. Le mot stupide. Il y a même une version française, version 1921, qui dit le fou. Le fou. Quand on désobéit, ça détruit notre capacité d'analyse. La Bible fait souvent le lien entre mauvais comportement. Incapacité de comprendre. Et puis, la dernière catégorie. Alors là, on a juste l'impression qu'on sort de l'histoire. On se dit, c'est juste le contraire des trois premiers. 1. Ils travaillent. 2. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Donc, ils sont clairement bien. Ils sont ni perdus. Ni enfermés dans leurs idées, ni enfermés dans leurs comportements. Ils voient très clairement pourquoi la tempête arrive et le temps est dit, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Justement, normalement, c'est des gens qui savent faire. C'est des travailleurs, ceux qui savent. Ceux qui éventuellement, ça pourrait faire conférence à ceux qui veulent obéir à Dieu, qui travaillent pour lui, qui sont là, ils sont bons, ils sont justes, ils sont là. Et eux aussi, ça leur arrive, bizarre. Alors, qu'est-ce que ces quatre personnages ont en commun? A priori, pas grand-chose. Mais elles ont toutes vécu une difficulté extrême qui aurait pu les détruire. Elles ont toutes crié à Dieu. Et elles ont toutes expérimenté le secours de Dieu, la grâce et l'amour de Dieu. Le psalmiste utilise exprès la même phrase pour nous choquer, pour nous dire « Oh, bien sûr, alors ?» D'une part, on va le mettre, d'une part, ils ont crié vers le Seigneur tout de la même façon. Ça, ça montre l'universalité de la condition humaine. On est tous humains, on est tous dans le même bateau, on est tous entre la naissance et la mort dans les mêmes conditions. On peut tous être prêts aux mêmes angoisses, peu importe le pays dans lequel on vit, peu importe l'âge qu'on a, peu importe la langue qu'on parle. Ça nous parle. Et la deuxième chose, c'est que Dieu a agi exactement de la même façon pour les quatre. Exactement de la même façon. Qu'est-ce qu'il a fait? Et verset 2 dit, le Seigneur les a libérés, arrachés, rassemblés. C'est ça. Moi, ça me fait penser à l'esprit du Nouveau Testament qui dit que le projet de Dieu, c'est de rassembler tous les êtres humains. C'est qui peut les rassembler? C'est Jésus. Jésus, il a la capacité de nous rassembler de tous les pays. Alors, on continue. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, il les a arrachés, mais il n'y a pas fait que ça. Est-ce que vous avez remarqué, dans deux des histoires, il est écrit que c'est Dieu qui a envoyé le malheur. Allez, c'est Dieu qui a envoyé le malheur. C'est écrit pour deux des histoires, ce n'est pas écrit pour les deux autres. Ça, c'est bizarre. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est important de le relever. Pourquoi c'est écrit ça? Moi, Dieu enverrait-il la difficulté? Et en plus, Dieu délivrerait les personnes de la même façon? Mais attendez, mais Jonas, il ne serait pas d'accord, les Jonas de la Bible. Il dirait, bon, d'accord, pour la catégorie 1 et 4, je suis d'accord, Dieu fait de la même façon, mais franchement, la catégorie 2 et 3, c'est de leur faute, quoi. Non? Ça vous dit non? Bon. Eh bien, là aussi, le texte veut nous parler. Alors, je suis un peu allée vite parce que le temps est là. Donc là, on a fini la partie où on a observé le texte, on l'a regardé, on l'a questionné. Mais maintenant, c'est pourquoi? Pour que le récit nous révèle ce qu'il veut nous dire. Alors là, j'ai mis clé numéro 3, le récit parle sur terre. Alors pourquoi j'ai osé écrire ça? C'est un peu de l'expliquer. C'est parce que, une fois qu'on a questionné le texte, une fois qu'on a cherché ce que les personnages ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé, une fois qu'on a relevé ce que Dieu a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé, on peut tout simplement comprendre ce que le texte veut nous dire. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi il nous fait taire? C'est parce que c'est pas bon d'utiliser un texte de la Bible pour dire ce que nous on veut dire. Restons sur ce que le texte dit. Ce texte avait aussi dit de ne pas généraliser. Ce texte ne dit pas, par exemple, que Dieu envoie le malheur. De façon générale, ce texte dit que c'est arrivé pour certains, mais ce texte ne dit pas que c'est une généralité. Par contre, ce qui est une généralité, ce que dit le texte, c'est que quand on crie à lui, Dieu répond. Vous voyez? Donc c'est important d'observer, de lire, de relire le texte. Donc, maintenant, on va un peu voir finalement qu'est-ce qui dit ce texte. Alors, la question de départ, vous vous souvenez? Les enfants, c'était quoi la question de départ? Comment est l'amour de Dieu? Comment il est? Alors, qu'est-ce qui dit le texte? 1. Il dit que l'amour de Dieu est personnel. Quand on lit, quand on réalise que les enfants ont lu, il les a conduits tout droit vers un Dieu habité par ceux qui étaient dans le désert. Il leur a donné à boire et à manger pour ceux qui avaient faim. Il les a fait sortir de la cellule sombre pour ceux qui étaient enfermés. Il les a arrachés à la tombe. Il les a conduits au port qu'il voulait atteindre à les marins. Ça veut dire que pour chaque personne, Dieu va faire exactement ce qu'il faut par rapport à notre situation. L'amour de Dieu est personnel. Ce qui est étonnant, c'est que dans le texte, il est écrit Dieu les délivre de leur peur. Il n'a pas écrit Dieu les délivre de leur situation. Quelquefois, Dieu délivre d'une situation après on a plus peur. Mais quelquefois, c'est le contraire, moi j'ai déjà vécu. Quelquefois, Dieu m'a délivré de la peur, la difficulté de rester. Mais j'avais plus peur. Et après, la situation s'est résolue toute seule. Ça, c'est le pire, ça, c'est le pire. C'est les deux sentiments qui sont très forts dans ce récit, la peur et l'amour. Donc, premier enseignement, l'amour de Dieu est personnel. Là, on le voit. Il a cassé leur tombe. Il les a arrachés de la tombe. Il a calmé la tombe. Les vagues sont restées très bien. Deuxième chose. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? L'amour de Dieu est pour tous ceux qui font appel à lui. Moi, ce qui m'étonne dans ce texte, et ce qu'on voit, tout le monde n'a pas compris la même chose de Dieu dans ce texte, on est d'accord. Tout le monde n'avait pas la même vision de Dieu, la même compréhension de Dieu, et pourtant, ils ont tous crié à Dieu, et Dieu a pu leur répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans un principe de vie qui est écrit partout dans la Bible. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34. Autre psaume, 72. Il délivrera le pauvre qui implorera son secours et l'affligé qui n'a pas d'aide. C'est un principe. Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est un principe biblique dans la Bible qui va partout. Approchez-vous de Dieu. Vous savez, on va lire ce verset qui est essentiel et qui explique cela. C'est dans Romains 10. Il n'y a pas de différence entre les justes et ceux qui ne sont pas justes. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à ceux qui sont appelés à lui. Tous ceux qui seront appelés au Seigneur seront sauvés. Et quel enfant qui veut le dire ce verset? Allez, quelqu'un qui a pas lu. Qui veut lire? Qui veut venir lire ce verset? Allez, bien. Ça, c'est un verset qui, après, je vais lire une parole. Parce que, bien, cours. Je vais le redire.
À tous ceux qui se rappellent à lui, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Bravo! Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que quand on crie à Dieu, on ne ment pas. Quand on crie à Dieu, qu'est-ce qui se passe? accepte ce regard. Quand on crie à Dieu, on accepte de voir ce qui est à l'intérieur. On ne fait pas d'autre truc, on n'est pas en train de dire oh non, c'est la faute des autres, mon malheur. Si je dis, prie pour moi, la terre entière en Dieu, c'est pas crier à Dieu. Il ne peut pas me répondre. On ne peut pas dire c'est vertu. C'est dit, oh moi je me laisse. Voilà. C'est les autres qui sont méchants. En cours de réflexion, c'est tout le monde les autres, jamais moi. Si on dit ça, on ne rentre pas là-dedans. Crier à Dieu, c'est vous dire. D'accord. Allez, je mets le projecteur, là, pour les adultes, on va dire, sur notre cœur. On met le projecteur sur les profondeurs, nos énergies de notre cœur. Hein? Il y a, quand on prend quelqu'un, il y a trois doigts qui sont tournés vers moi et un vers l'autre. Voilà. Et c'est pour ça que le principe biblique marche. Donc, s'il faut retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? À Dieu. Alors, répète, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Crier à Dieu, retenez-le pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le texte dit encore? Donc, l'amour de Dieu est personnel, pour tous, mais aussi pour toujours. Alors, les adultes diraient un amour inconditionnel, ça veut dire sans condition. Ça compte pour toujours. Ça, je l'écris pour toujours. La Bible nous explique partout ce que ça veut dire, cet amour inconditionnel. Ça veut dire que cet amour ne dépend pas de ce que je fais ou que je ne fais pas. Et c'est là qu'il y a un nœud souvent dans notre vie. L'amour de Dieu ne dépend ni de notre état. C'est perdu, enfermé, stupide, travaillant, peu importe. L'amour de Dieu ne dépend ni de notre état, ni de notre compréhension, ni même, et ça c'est choquant, de notre comportement. Parce que Dieu est amour. C'est lui l'amour. C'est pas juste qu'il aime, il l'aime. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir peur d'aller dans la vie de tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir peur. Ça veut dire que si on a encore plus mal, on va faire mal, on convient. On donne encore, on n'a pas besoin de faire. Alors maintenant, la dernière clé de lecture. Avant, j'ai dit, la Bible parle, il faut comprendre ce que le texte dit. Parce que ce que le texte dit, c'est la même chose pour moi et pour chacun d'entre vous. C'est ce que le texte dit, c'est ce que Dieu veut nous révéler à travers la Bible. Ensuite, il y a ce que moi je comprends. C'est une autre chose. Vous savez, on utilise le mot interprétation, pour dire deux réalités différentes. Et j'aimerais qu'on fasse la différence. D'abord, on a compris le texte et après, on interprète. La première partie interprétée, c'est qu'est-ce que le texte dit, qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que la Bible dit. Ça, c'est pareil pour tout ce qui est écrit. La deuxième partie du mot interprété, c'est l'application pour ma vie. Et là, on ne voit pas la même chose. Moi, vous, un enfant, un adulte, c'est normal. Vous savez, quand on lit un texte biblique, le but, c'est qu'on comprenne quelque chose spirituellement et qu'on grandisse spirituellement. Et pour ça, il faut savoir qu'on peut créer un prochain texte avec ce qu'on appelle notre propre bibliothèque interne. C'est-à-dire, ça ne va pas parler de la même façon à une maman, un papa, un enfant, un ado, une mamie, un papy, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est perdu, ça va tout parler de la même façon. Et c'est essentiel pour ça que quand on lit la Bible ensemble, avec les enfants à la maison, on tisse le fil, on tisse ensemble, on laisse les enfants parler. Parce que si on laisse les enfants parler, ils vont dire des choses auxquelles on n'aura jamais pensé. Il faut laisser parler, parler avec vous d'un texte, parler parce que là vous allez comprendre des choses. Qu'est-ce qui vous a touché le plus souvent dans l'écriture? Non, vous, parlez dans votre cœur, qu'est-ce qui vous a touché le plus dans ce psaume? Laissez-nous aussi vous parler. Moi, il y a une première chose qui m'a frappée dans ce texte. Quand le Jésus m'a parlé,
Dieu. Dieu désire beaucoup plus que nous à tes yeux. Même à des yeux très sincères. Il veut plus que l'ombre de surface. Il veut creuser. Dieu veut que je le comprenne qu'il est au bout du bout de moi-même. Les ados disent quelque chose au bout de la vie. Et c'est là que Dieu veut te toucher. C'est là. Des fois, c'est un environnement dans lequel on est obligé de chuter, de tomber, quand Dieu découvre vraiment qui est Dieu. Et qu'on découvre combien son amour est grand. Et combien qu'on crée en lui. Il ne voit pas en nous une personne de misère, comme disait cette missionnaire. Il voit quelqu'un de beau. Moi, j'ai vécu. Je me suis jamais nommée. En 99, j'ai vécu une expérience très forte. J'ai cru m'être trompée. J'étais honteuse de mon Dieu. J'étais pas bien. J'étais mal. Je me suis dit, Dieu va m'écraser comme une mousse. Je peux aller terminer la lecture. Terminer. Et bien, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, où j'étais sûre que Dieu m'aimait plus, et bien, il m'a montré son amour. Mais tellement fort, mais tellement, et qu'il m'a non seulement montré son amour, mais il m'a donné des perspectives d'avenir pour la suite en disant, mais non, c'est pas fini. Ça m'a tellement changé. Je suis allée à un séminaire, vous n'avez pas eu pour comprendre ça. Je suis revenue, j'ai débordé de joie, je raconte à tout le monde que Dieu m'aimait. Et depuis longtemps, c'était il y a 18 ans, mais c'est resté en moi comme une encre. C'est resté, je peux toujours, mais dans certaines choses, j'ai peux toujours, je sais, le ciel qui tombe, c'est à l'intérieur, c'est au profond. Et si je n'avais pas vécu cette tempête, je ne veux pas comprendre. Et c'est pour ça que Dieu nous fait vivre des tempêtes des fois. C'est pour ça, parce que des fois, c'est comme ça. Vous savez, Dieu veut que les enfants vivent petits. Dieu veut vous donner, devenir de beaux et de grands arbres. Pour qu'un arbre devienne, vous savez, le psaume 1, heureux l'homme qui ne se fait pas en compagnie de nos cœurs. Il est comme un arbre planté près de, des courants d'eau. De, une autre personne qui vous résiste, croise comme le panier, etc. Dieu veut que vous viviez de racines, de racines solides. Moi, je vais comparer ma vie à un arbre assez souvent. À un moment donné, je me perds de ça, je dis, oulala, il y a besoin de la gaz. Ça a poussé dans tous les sens. Oulala. Eh bien, alors Dieu le fait. Et c'est pas grave. Mais vous savez pourquoi? C'est pas pour que cet arbre devienne grand et beau pour dire, oh, comme il est beau. C'est parce que quand un arbre est grand et fort, les oiseaux peuvent venir se reposer dans ses branches. Parce que alors cet arbre peut faire de l'ombre, cet arbre peut nourrir et donner des fruits. Et c'est ce que c'est le projet de Dieu pour chacune de vos vies, c'est qu'on devienne cet arbre avec des racines. Quand j'étais plus jeune, les arbres avaient des racines incroyables. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de tempêtes. Plus les tempêtes, plus l'arbre a fait des racines, mais plus il est ancré. Et c'est le projet de Dieu. C'est comme il y a un peu bizarre parce qu'on voit des tempêtes. Mais ce n'est pas pour juste avoir des tempêtes, c'est parce que Dieu a un projet pour nous. On ne sait pas ce qu'il y a dans la vie. Nos enfants ont besoin de construire des vies avec des racines profondes. Dans le petit texte dans la Bible, pas n'importe comment. Et par exemple, des racines profondes. Et ce point-là peut aussi concerner les enfants. Vous savez, on ne peut pas développer l'intégrité si on n'a pas été confronté à des situations de vie qui nous demandent de choisir. Il y a un auteur qui s'appelle Timothée Stuart qui a écrit un livre, deux livres qui s'appelle Enfant risque, enfant promesse. Vous le l'accepterez, il est là en Israël, si vous voulez. Il développe l'idée qu'un enfant qui est élevé que dans l'adversité, c'est de la maltraitance. Puis l'enfant aimé, c'est une éducation à risque. Mais si on est dans la relation et l'amour sans aucune adversité jamais, dans l'indulgence, pardon, dans le délit sans punir, on est aussi dans la négligence, on est aussi dans une éducation à risque.
Et Dieu est un bon papa. Il nous dit qu'il fait doser. Il faut doser ça. Pour que ce livre dit que on peut, les enfants peuvent avoir été confrontés à des situations terribles et difficiles. Ils peuvent s'y sortir à condition qu'une personne qui croit en elle, qui les aime, par elle. À condition que quelqu'un qui dit oui, moi je suis là pour toi. Et Dieu le sait, mais nous aussi on peut le faire. Donc je ne développe pas, c'est développé dans le livre. Ensuite, le récit me parle. On ne guérisse pas l'amour de cette femme. Autre point, l'amour de Dieu me transforme. Mon premier pasteur ici, quand j'avais 14 ans, il disait, si vous avez péché, eh bien, on a honte, on s'éloigne de Dieu. Mais non, c'est le contraire qu'il faut faire. Si on a péché, il faut courir vers lui, parce que comme ça, il nous pardonne déjà pour commencer, et surtout, il nous accepte. Et il nous aide à plus recommencer. Donc, souvent, on dit, oh là là, je ne suis pas bien, je ne suis pas prié. Mais non, si on a compris comment est l'amour de Dieu, cet amour-là, alors on n'a plus peur. J'ai péché, je cours vers lui. Je cours vers lui. Parce que je sais que je suis en sécurité, qu'il me pardonne. Et que, vous savez, un enfant, combien de temps il tombe avant de marcher, un bébé? Pas de fois, mais à la fin, il marche. Deuxième chose, l'amour de Dieu me transforme parce que quand j'ai vécu cet amour-là, je peux aimer de cet amour-là. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Les enfants ont besoin de développer des formes d'attachement que les psychologues appellent sécures. C'est-à-dire des préconceptions qui les aideront à grandir dans leur relation avec les autres. Si les rassurer, il sera curieux et ouvert. Si nous, les parents, on a tendance à ignorer l'enfant quand il est en détresse, il va développer une forme d'attachement qui s'appelle évitante. Ça veut dire qu'il aura du mal à être proche, du mal à faire confiance. Si on a tendance à ignorer les enfants quand ils sont en détresse, tout à fait pareil. Il peut développer une forme d'attachement qui s'appelle évitante, c'est-à-dire, ambivalent, pardon. Il va avoir peur d'être abandonné. Il va craindre. Il va développer la peur. Si on est très enfant, on est sur notre menace et la souffrance, l'enfant va construire une forme d'attachement toute désorganisée. Alors, c'est pas très cool ce que je vous dis là, mais. Dieu nous donne une clé, la Bible donne une clé pour les parents. La clé, c'est que l'amour de Dieu peut nous transformer et peut nous aider. Il y a un verset qui est génial dans 1 Corinthiens qui dit : mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis, et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est. Le Seigneur, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. Alors, je vous demande à une monitrice de venir et un papa, ça c'est garçon, et ils vont dire ça, au lieu de mettre apôtre, le papa il va mettre père, et le moniteur il va dire animateur ou moniteur. Alors, qui veut venir? Qui ose? Un homme, un père, un père. Et un moniteur. Alors, un moniteur. Allez, il y a un papa là, tout devant. Il est tout devant. Il n'est jamais passé entre les mains. Et pendant ce temps, le moniteur se prépare. Alors, vous lisez ça, mais au lieu de dire j'ai travaillé plus que tous les apôtres, vous avez dit j'ai travaillé plus que tous les pères.
1 Corinthiens 15, verset 10. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Cet amour m'a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les pères. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi.
Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenue la monitrice que je suis, et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres.
En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui est sur moi. C'est particulièrement vrai pour Béatrice qui peut dire que j'ai travaillé plus que toutes les autres maîtrises. Parce que quand elle a fait une 60 par semaine le dimanche, elle en bas. Avec les enfants, il n'y en a pas beaucoup après avoir travaillé 50 ou 60 heures à la maison qui viennent. Ça te correspond particulièrement, Béatrice. Oui, ça c'est une clé. C'est une clé pour nous. Et le dernier point, l'amour de Dieu me rend reconnaissant. Le premier verset dit qu'il dit merci au Seigneur pour son amour, ses actions étonnantes. Pourquoi, si on dit merci à Dieu devant nos enfants, ça veut aussi dire qu'on va leur raconter nos galères, vous êtes d'accord? Et ça, est-ce que c'est bien ou c'est bien? Si on raconte aux enfants comment Dieu nous a délivrés, il faut qu'on raconte de la situation où nous sommes. Pourquoi c'est important de dire nos chutes, nos difficultés à l'enfant? Parce que si on ne leur dit pas, ils pourront croire que c'est de leur faute si on est dans ce cas-là. Les enfants, quand il y a des malaises dans les familles, des mondes, les enfants, quelquefois, croient que c'est de leur faute. Inutile de leur partager les sources de nos peurs, mais dire « Je rencontre des difficultés au travail. » C'est simple, on peut le dire. Et ensuite, raconter l'intervention de Dieu, ça va nourrir la foi de l'enfant. Raconter ce que Dieu a fait, ça va leur permettre, le psaume 78 dit, de leur ça va leur permettre de mettre leur confiance dans Dieu. J'ai vécu plein de fois, j'ai même vécu l'année dernière au travail. Ma collègue, j'ai rencontré une grosse difficulté. Et 6 mois après, c'est elle qui a vu comment Dieu a répondu. C'est-à-dire, elle n'avait même pas besoin de témoigner, elle l'a vu, c'est le témoignage qui rendra à Dieu. Conclusion. On n'a pas toujours besoin d'une explication rationnelle à tout. Dieu fait toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas. Mais rappelons-nous toujours que l'amour de Dieu est personnel, pour tous, pour toujours. On peut toujours crier à lui quand il y a un souci. On peut toujours crier à lui, tout lui dire et lui dire merci.